Yvon Perrin revient sur la scène publique après 17 mois de mutisme. L'UDC avait été contraint à la démission du gouvernement de Châtelois. Il évoque aujourd'hui ouvertement sa maladie, ou plutôt sa guérison, dans la presse romande. Pourquoi autant de détails ? Yvon Perrin, bonjour.
Bonjour.
Yvon Perrin, merci beaucoup d'être en direct ce matin dans les studios de Médialogue. Yvon Perrin, je vous présente tout de même. Vous êtes ancien conseiller national, ancien conseiller d'État UDC de Châtelois. Vous avez dû démissionner, c'était en juin de l'année dernière. Aujourd'hui, vous voilà disponible, dites-vous, pour être candidat à la présidence de l'UDC de votre canton. Récemment, la presse a largement souligné votre retour. Des articles au-delà du rayonnement médiatique des médias neuchâtelois. Pourquoi un tel intérêt sur votre personne? Quels sont vos rapports avec les journalistes? Quel rôle joue la presse dans votre équilibre personnel? On va parler de tout ça. Yvon Perrin, c'était difficile d'être un anonyme durant 17 mois?
Non, pour une raison relativement simple, c'est qu'en fait, j'étais tellement au fond du trou, je m'en suis pas tellement rendu compte, n'est-ce pas? Il y avait vraiment qu'une obsession, c'était dormir, parce que vous accumulez les nuits blanches les unes après les autres, vous savez que ça va moins bien que hier, mais ça va mieux que demain. Et puis, il y a plus que ça qui compte. Donc, tout le reste, c'est tout à fait accessoire. Vous ne vous intéressez plus à rien. Il y a vraiment que cette pensée, tout le temps, qui tourne en boucle, dormir.
C'est une obsession. Vous allez bien aujourd'hui?
Oui, merci. Je dois à la pharmacie moderne d'avoir trouvé ce qu'il fallait pour enfin dormir. Le problème que j'ai, c'est que je fais partie des quelques pourcents de personnes qui sont pharmaco-résistants. Et du coup, il me faut un petit peu plus que les standards habituels. Et puis, il a fallu un certain temps justement pour trouver où était le problème. Et maintenant, j'ai ce qu'il me faut. Et depuis 3 mois maintenant, je passe des bonnes nuits. Et c'est vraiment merveilleux. Parce que petit à petit, ça revient. C'est pas... Où c'est très pénible, c'est quand vous commencez à descendre et que vous vous rendez bien compte. Vous êtes le spectateur privilégié de ce qui se passe, de votre déchéance. J'aime beaucoup l'histoire. À un moment donné, les dates, les lieux, les noms disparaissent. Vous ne souvenez plus de rien, et ça c'est très pénible, cette phase descendante où vous voyez bien que ça va de moins en moins, de pire en pire, et puis au final il y a une constatation à faire, c'est que c'est plus possible.
À partir de quel moment vous avez décidé de rendre public votre rétablissement? Comment ça se passe concrètement? Vous dites « maintenant je vais bien, je téléphone à un journaliste
». Non, j'ai pas besoin. Je suis simplement allé à l'invitation de l'UDC Vaud, à Verterive, sauf erreur, ça devait être le 11 novembre. Verterive, pour moi, c'est un endroit très important. C'est la maison du général Guizan, qui est une légende vivante dans la famille des deux côtés, tant paternel que maternel. Et puis, ce genre d'invitation ne se refuse pas. Donc, j'y suis allé. Évidemment, il y avait ici ou là une caméra, un micro. Là, tiens, il est de retour. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est depuis ce moment-là que j'ai reçu des téléphones.
La première interview, c'est à RTN, hein, la radio à Neuchâtel que vous avez accordée. Puis ensuite, ça a été repris par une multitude de médias. Alors, vous dites oui une première fois, puis après, les choses s'emballent.
Oui, alors ça, j'ai pas très bien compris cet intérêt
subit. Bon, avec votre consentement, Yvon Perrin, rassurez-moi.
Ah oui, genre j'ai pas parlé sous la torture. Hein. Non, c'était tout à fait spontané. Simplement, il faut bien voir quelle était ma situation. Donc, j'ai été élu au Conseil d'État, donc on m'a confié une mission, une tâche, et j'ai failli. Et il me semblait quand même que c'était la moindre des choses d'expliquer aux gens ce qui m'était arrivé. Parce que bien évidemment, on comprend mal que quelqu'un s'annonce pour faire quelque chose et finalement n'y arrive pas. Donc il me semblait important de donner quittance par rapport à ce qui s'était passé.
Mais la radio et l'Impartial Express auraient dû suffire?
Écoutez, vos confrères ont dû juger que non, puisque c'est un problème d'agenda. Donc il y avait un tournus, si je puis dire, dans mon appartement. Vos confrères photographes installaient un lourd matériel dans le salon, donc ils devaient se croiser. Il y avait un problème de prise électrique aussi. Il y avait toute une question logistique à régler.
Comment vous interprétez cette curiosité de la part des journalistes romands?
Alors ça, je l'explique mal, justement. C'est quand même pas quelque chose de particulièrement intéressant, n'est-ce pas? J'ai eu un long passage à vide, mais enfin, cet intérêt pour mon retour m'a surpris.
Il y a une sorte de pipolisation de la personnalité politique que vous êtes. Vous avez ce sentiment? Parce que ce qui vous est arrivé est assez croustillant, finalement, pour la presse.
Bon, enfin, au fil de mes pérégrinations, donc j'ai fait un tour de Suisse des cliniques. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes qui avaient le même problème que moi. Donc, avec justement ce parcours, je ne veux pas dire que ça banalise, mais disons, le caractère exceptionnel de la chose disparaît. Ça vient quand même quelque chose, peut-être pas de commun, mais enfin de connu. Et puis là, tout à coup, première interview à la radio, les téléphones sonnent. J'ai pas très bien compris quel était l'intérêt, mais encore une fois, il me semblait que je devais jouer carte sur table et répondre aux questions qui m'étaient posées, parce que je trouvais ces questions légitimes.
Pour vos électeurs à qui vous deviez quelques explications, mais pour vous-même, quel effet est-ce que ça a eu? Est-ce que ça vous a rassuré? Quel effet ça a produit, finalement, sur votre personne, sur votre intériorité?
Écoutez, pas grand-chose, on va dire. J'étais soulagé d'avoir pu expliquer ce parcours. Je me suis rendu compte que ce parcours est relativement long pour certaines personnes. J'ai eu l'occasion de côtoyer des résidents qui avaient exactement le même souci. Et peut-être que, en exprimant ce qui s'est passé, ça peut rendre service à l'une ou l'autre personne, puisqu'idéalement, ce serait bien de prendre les dispositions avant d'être au fond du trou. On peut le faire, mais évidemment, il faut prendre conscience du problème suffisamment tôt.
Les journalistes ont reflété, selon vous, correctement ce qui vous est arrivé, ce que vous leur avez raconté?
Oui. Alors, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. Faut quand même se rappeler que j'ai été élu conseiller national en 2003. Donc, au fil des années, il y a quand même des liens qui se créent. Vous savez avec qui vous pouvez jouer franc-jeu, avec qui peut-être une certaine prudence est de rigueur. Puis, au fil des années, je dirais, les relations se nouent de manière de plus en plus étroite. Et puis, en 12 ans, je crois pouvoir dire que je me suis jamais fait rouler dans la farine. Il y a eu une fois où il y avait une phrase qui avait été tronquée et le bout qui manquait changeait complètement la signification. Ça m'a un peu énervé. Mais pour le reste, non, j'ai jamais eu de mésaventure.
Mais on pourrait se dire que vous n'avez pas été trompé ou roulé dans la farine, comme vous dites, parce que précisément, vous dites absolument tout. Hein. Consommation de whisky, donc alcoolisme, dépression, énormément de peur. J'ai lu quelques coupures de presse vous concernant, donc vous confessez volontiers ou vous dites volontiers que vous avez été obèse à 15 ans, que vous aviez des complexes aussi de timidité, vous ne supportez pas que l'on bouge vos affaires. On se dit, mais Yvan Perrin, il raconte tellement de choses qu'on ne peut plus rien raconter de faux.
Bon, l'obésité à 15 ans, c'est pas un scoop. Hein. Tous les copains...
Non, mais sur votre personne, il y a, j'allais dire, certains pourraient interpréter cela comme de l'impudeur. Où c'est que vous fixez la limite?
J'essaye de répondre aux questions qui me sont posées pour instaurer une certaine transparence, certaine. Mais vous observerez que j'ai toujours été d'une discrétion de violette s'agissant de ma vie privée. Donc les personnes que je côtoie ne sont pas comptables de mon activité politique. Par contre, il me semble...
Bon, vous confessez quand même que vous avez une peur panique d'être père.
Oui. Pas franchement le sens des responsabilités à ce niveau-là. Et puis, disons, ce que j'ai vécu enfant, je n'aimerais pas le reproduire. Du coup...
C'est-à-dire?
J'ai connu des meilleurs moments que mon adolescence. Oui, j'ai eu des périodes plus agréables.
C'est-à-dire?
J'avais quelques soucis avec mon papa. On n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Pas facile tous les jours, mais je pense que c'est quelque chose qui frappe à peu près tous les adolescents du pays. Donc, je n'ai pas l'exclusivité de ce genre de problème.
C'est-à-dire, de manière plus précise?
Oui, il y avait aucun contact. Nous vivions en étranger. Et puis, il se trouve qu'on habitait les deux la même maison. Mais c'est à peu près c'est l'essentiel de ce qui nous unissait.
En somme, Yvan Perrin, vous n'avez pas eu de père.
Alors si, j'ai eu beaucoup de chance dans mon existence. J'ai eu un géniteur et un père. Ce sont deux personnes, mais j'ai tout eu. Oui, alors je ne peux pas me plaindre.
À partir de quel moment vous vous dites « j'en ai assez dit » à la presse quand elle est indiscrète? Parce qu'avec tout ce que vous avez raconté, finalement, on se dit « mais Yvan Perrin, on peut lui poser toutes les questions parce qu'il est d'accord ». À partir de quel moment vous dites non?
À partir du moment où notre entretien se terminera.
Est-ce que ça vous fait du bien de parler à la presse, de parler aux journalistes?
Du bien, non, mais encore une fois, il me semble nécessaire de donner quittance aux gens qui ont mis mon nom dans l'urne. C'est quand même pas un geste anodin. Vous vous dites, ben voilà, on espère qu'il fera ceci, qu'il fera cela, et tout à coup, ses espoirs sont brutalement déçus. Et moi, si d'aventure ça devait m'arriver comme spectateur, j'aurais quand même envie de savoir ce qui s'est passé.
Yvan Perrin, vous prenez le risque, vous le savez certainement, d'être pour une part instrumentalisé aussi par la presse, parce que vous représentez une sorte de personnage atypique dans le paysage politique roman, et peut-être que ce rôle de victime, d'homme fragile, appartenant à l'UDC, un parti qui a des opinions assez tranchées, assez franches, ce contraste-là, peut-être que vous pouvez être instrumentalisé et favoriser une certaine curiosité, peut-être toujours la même. Comment vous gérez ça?
Non, je ne crois pas. Vous avez dit que l'UDC, une certaine franchise, une certaine rigueur, un certain nombre de qualités, ou en tout cas d'adjectifs qu'on nous prête, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Voilà, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et puis je pense que c'était mon devoir de donner quittance, d'expliquer ce qui m'est arrivé. Mais encore une fois, il y a un certain nombre de choses me concernant que je garde pour ma vie privée. Il y a vie et surtout il y a privé.
Mais cette image, vous la gérez quand même. Vous regardez comment la presse reflète votre personnalité, vos failles et vos forces aussi, parce qu'il y a aussi des éloges. Hein. On vous dit très cultivé, on vous dit très intéressé par l'histoire, vous avez des affinités avec d'autres cultures, vous êtes quelqu'un de très curieux, autodidacte aussi, on vous dit ça. Il y a une gestion de votre part, de votre image et de ce que vous êtes à travers la presse.
Alors, mon image dépend beaucoup des questions qui me sont posées. Je me souviens pas avoir suscité une question, n'est-ce pas? Si vous avez un débat et que tout à coup, peut-être une citation, une date, un endroit devait être évoqué, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. C'est pas quelque chose comme la confiture sur les tartines. Moi, on en a plus, on l'étale. C'est simplement que de temps à autre, c'est utile, suivant dans quel cadre vous vous exprimez, d'avoir une référence, d'avoir peut-être une citation. On en trouve qui sont vraiment bonnes en politique. Un qui était particulièrement fort à ce niveau-là, c'est Churchill. Vraiment, c'est que du bonheur de lire son livre de citations. Et là, je pense pas que cette image ait été suscitée. C'est simplement qu'à un moment donné, c'est venu comme ça. C'était assez intéressant. Quand j'ai été élu, le 19 octobre 2003, tout à coup, un policier à Berne, l'image, je dirais, un peu standard, la casquette qui serre un peu, la profilose, donc le cerveau qui diminue, et puis on finit par mourir parce que les deux oreilles se touchent. C'est un peu ça, puis petit à petit, ben voilà, un micro passe, vous répondez, ah bon, il a répondu. Et puis, à un moment donné, ben, vous donnez une autre image. Et j'ai trouvé ce processus assez intéressant.
Vous êtes surpris d'être surprenant?
Oui, parce que j'ai un parcours qui est relativement commun quand même. Hein. J'ai rien fait d'extraordinaire, pas inventé grand-chose. Donc, pour l'essentiel, j'ai été le premier à un concours de circonstances.
C'est une formule?
Oui, c'est une formule. Mais elle est connue, donc c'est, encore une fois, hein, je ne la revendique pas, je m'en sers simplement. Vous avez tout à coup une section qui est en voie de création. Il se trouve que vous vous retrouvez dans les idées que le parti en question défend, donc vous participez à la démarche. Ensuite, vous êtes invité en janvier 2003 pour 9 minutes d'horreur absolue à mise au point. Et je suis toujours le détenteur du record de Suisse, de celui qui est sorti le plus vite de la tour de la télévision à Genève.
C'est là où vous avez mis des pantalons trop larges.
Oui, très large, pas trop.
Parce que vous trembliez.
Voilà, oui, parce qu'alors il y avait plus un muscle qui était tranquille, donc peut-être les oreilles, mais je ne sais pas. Et là, c'était vraiment abominable. Et tout à coup, au bout de ces 9 minutes, eh bien, on pense à vous pour être candidat. Ça fait rire absolument tout le monde. Les pronostics les plus optimistes nous donnaient 7 à 8%, puis patatras, le 19 octobre 2003, de 7 à 8, on passe à 22,5. Donc c'est un enchaînement de choses et d'événements sur lesquels je n'ai pas eu beaucoup d'emprise, voire pas du tout.
Alors aujourd'hui, ça c'était en 2003. Hein, oui. C'était en 2003, vous vous êtes lancé en 2001.
Oui, 18 octobre.
Aujourd'hui, enfin récemment, donc vous vous êtes mis à disposition pour prendre la direction, et on va approcher de la conclusion, Yvon Perrin, pour prendre la direction de la section donc de l'UDC Neuchâtel.
Oui.
Vous n'avez pas sentiment d'une répétition de scénario ?
Bah écoutez...
Avec tous les risques que ça comporte, évidemment.
Oui, mais enfin, si le scénario se répète, donc j'ai eu l'honneur et le plaisir
ça s'est pas, ça s'est mal terminé quand même.
Ça s'est mal terminé, certes, mais enfin, il y a quand même eu 12 ans où c'est pas trop mal allé. Et puis, on est passé de rien, puisqu'il n'y avait pas de section, à 22,5% quasiment d'un coup. Et puis maintenant, nous avons des élus communaux, cantonaux. Un élu fédéral qui a été reconduit.
Ça, c'est le succès politique. Je parle de votre succès personnel. Est-ce que vous avez une stratégie aujourd'hui avec les journalistes pour pouvoir, j'allais dire, répéter le succès que vous avez connu? Sans l'épilogue, évidemment.
Non, si on peut éviter. Non, alors, stratégie avec les journalistes, non. Mais j'ai une stratégie pour les prochaines échéances qui nous attendent à Neuchâtel. Nous avons les communales le 5 juin prochain. Et puis les cantonales une année plus tard. Donc il faut vraiment là qu'on se mette, comme on dit, en ordre de bataille et qu'on ait une cohérence totale jusqu'au lendemain des élections cantonales. Ensuite, on verra les réglages fins. Si quelqu'un d'autre est intéressé par la présidence, moi, ça m'ira très bien. Mais je pense que maintenant, on n'a plus tellement de ce temps à perdre. On n'est pas encore en retard, mais on n'est déjà plus en avance.
Cette expérience politique, on le voit à travers tout ce qui est raconté sur vous, vous a mené à l'épuisement et, ma foi, quand même à l'atteinte à votre santé. C'était assez sévère, Yvon Perrin.
Ah, oui.
Quelles précautions aujourd'hui vous allez prendre pour que cela ne se répète pas? On a l'impression que vous n'annoncez aucun système de prévention pour vous protéger.
Alors, le système de prévention est relativement simple. C'est que maintenant, les symptômes, je les connais bien. Donc, je peux identifier le problème, je dirais, dès qu'il commence à se poser.
Vous avez arrêté de boire?
Oui. Et c'est-à-dire, à partir du moment où je dors, je bois pas. C'était l'aspect désespérant de mon tour de Suisse des cliniques, comme j'ai dit. C'est que d'emblée, on vous traite pour l'alcool. Et vous gesticulez en disant, non, mais je bois pour dormir. Donc, le problème, c'est le sommeil, pas la boisson. Et puis, on vous fait une prise de sang. Ah oui, alors très bien, 3 semaines, sevrage, vous pouvez rentrer chez vous. 2 jours plus tard, vous y êtes de nouveau. Et puis, vous faites ça pendant une année. Et c'est l'horreur absolue. Parce que vous dites, mais finalement, jamais personne va réussir à me faire dormir. Et un matin, miracle, il y a du soleil quand vous vous réveillez. Donc, vous avez passé une bonne nuit. Le soleil s'est levé avant vous. Et ça, c'est, sur le moment, il y a une euphorie terrible. Elle est tempérée immédiatement. Vous dites, bon, c'est une bonne nuit, mais alors les suivantes. Et puis, depuis 3 mois, ça se renouvelle. Et je dois dire que j'ai aussi profité, à ma grande surprise, du soleil ici à Lausanne. D'ordinaire, à cette saison, je croyais savoir que c'était plutôt le brouillard.
On vous le souhaite, Yvon Perrin, beaucoup de soleil aussi dans la presse concernant le reflet de votre parcours et votre personnalité.
Merci.
Parcours à venir. Médialogue vous souhaite de passer un excellent week-end et plein succès dans vos entreprises, parce que en politique, c'est jamais gagné.
Non, c'est jamais gagné. Je crois que c'est, je sais plus exactement si c'est Churchill ou Bismarck qui disait à la guerre on meurt. Non, c'est Churchill. À la guerre on ne meurt qu'une fois. En politique on peut mourir plusieurs fois.